d'aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, sommaire de cette édition du jeudi 1er août 2024. Au Nigeria, répression des manifestations contre la vie chère et la mauvaise gouvernance. Au moins 3 personnes ont été tuées. En Guinée, les avocats de l'ex-dirigeant militaire Moussa Dadis Camara font appel à sa condamnation pour crime contre l'humanité. Pour la première fois, le Rwanda se prononce sur le cessez-le-feu annoncé par Luanda dans le conflit dans l'est de la RDC.
Le processus de Luanda n'a pas l'ambition de résoudre tous les problèmes de la RDC. Ce processus a l'ambition de régler les problèmes qui concernent principalement les deux pays.
Olivier Jean-Patrick Ndungiré, ministre rwandais des Affaires étrangères, à suivre dans la partie magazine. La Russie a libéré le journaliste américain Ivan Gerskovich et l'ancien marine Paul Whelan dans le cadre d'un échange de prisonniers historiques. Les obsèques d'Ismaël Haniyeh, chef politique du Hamas, se sont tenues à Téhéran dans une cérémonie marquée par des appels à la vengeance. Ne manquez pas le journal des Jeux Olympiques de Paris. On commence par le journal. La police nigériane a tiré aujourd'hui des gaz lacrymogènes dans plusieurs villes, dont la capitale Abuja, pour disperser des manifestations contre la mauvaise gouvernance et la hausse du coût de la vie. Au moins 3 personnes ont perdu la vie, les précisions de John Lindon.
À Kano, dans le nord du pays, les manifestants ont tenté d'allumer des feux devant le bureau du gouverneur et la police a répliqué en usant du gaz lacrymogène. À la périphérie d'Abuja, où se sont rassemblées des centaines de personnes, la police a également tiré des gaz lacrymogènes. Plusieurs centaines de manifestants ont défilé dans le quartier d'Ikeja, à Lagos, la capitale économique. Baptisée « Mettre fin à la mauvaise gouvernance », ces manifestations se déroulent sous haute sécurité. Le mouvement s'est attiré de nombreux soutiens sur les réseaux sociaux. Ses organisateurs, une coalition informelle de groupes de la société civile, ont affirmé vouloir poursuivre leurs actions malgré des recours juridiques visant à limiter les rassemblements. Le gouvernement a dressé mercredi la liste des aides qu'il a proposées pour atténuer les difficultés économiques. Parmi ces aides, l'augmentation du salaire minimum et la livraison des céréales dans les États de la Fédération.
En Guinée, les avocats de Moussa Dadis Camara annoncent faire appel de sa condamnation à 20 ans de prison. L'ancien chef de la junte a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité pour sa responsabilité dans le massacre du 28 septembre 2009 à Conakry. Alexandre Nolognon.
Le collectif d'avocats de Moussa Dadis Camara dit rejeter en bloc la décision et affirme que leur client n'a jamais été entendu ou mis en demeure de s'expliquer sur les éléments constitutifs du crime contre l'humanité en 2 ans de procès. Il menace de saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Moussa Dadis Camara a été déclaré coupable sur la base de la responsabilité du supérieur hiérarchique, a déclaré Ibrahima Sori II Tunkara, le président du tribunal. Il a aussi été reconnu coupable pour son intention de réprimer la manifestation et pour avoir manqué à son devoir de sanction contre les auteurs du massacre. Mercredi, à l'annonce du verdict à Conakry, les faits ont été requalifiés en crime contre l'humanité par le tribunal. Selon le rapport d'une commission d'enquête mandatée par l'ONU, le 28 septembre 2009, au moins 156 personnes ont été tuées, des centaines d'autres blessées, et au moins 109 femmes ont été violées dans la répression d'un rassemblement de l'opposition dans un stade de Conakry et ses environs.
Le général Abdel Fattah al-Burhan ne va plus négocier avec les forces de soutien rapide. Le chef de l'armée soudanaise a pris cette décision après avoir survécu hier à une attaque de drones dans l'est du pays. Les États-Unis ont invité les deux parties à des négociations de paix à la mi-août à Genève. Mais M. Burhan pose ses conditions. Toute initiative de paix doit reconnaître, inviter et consulter l'État soudanais, a-t-il déclaré, faisant référence à son gouvernement. 4 militants pro-démocratie ont été inculpés ce jeudi au Zimbabwe après avoir été arrêtés et expulsés la veille d'un avion pour avoir manifesté en soutien aux leaders de l'opposition incarcérée. Ils sont accusés de troubles à l'ordre public pour avoir manifesté en juillet, alors que le dirigeant du premier parti d'opposition, Jameson Timba, et des dizaines de personnes étaient jugés pour une réunion illégale organisée en juin à son domicile près de Harare. Deux cas de Npox, de Mpox, virus longtemps appelé variole du singe ou monkeypox, ont été recensés la semaine dernière au Rwanda, dont un est déjà sorti de l'hôpital, a annoncé ce jeudi le ministère de la Santé. Le pays frontalier du Rwanda, la RDC, fait face de son côté à une augmentation exponentielle du nombre de cas de Mpox, selon une communication en Conseil des ministres le 20 juillet. Deux autres pays d'Afrique de l'Est, le Burundi et le Kenya, ont recensé de premiers cas. Mercredi, la Côte d'Ivoire a annoncé avoir recensé deux cas non mortels de Mpox dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Kremlin et les Occidentaux se sont accordés sur un grand échange de prisonniers, dont la libération de plusieurs Américains, comme le journaliste du Wall Street Journal, Ivan Gerskovich, détenu en Russie depuis 2023. Le président Joe Biden a salué cet échange comme un exploit diplomatique qui a mis fin à leur agonie. Claire Morin-Gibourg.
Avec un échange de 26 prisonniers, cet accord est l'un des plus importants depuis la guerre froide. Le président Joe Biden s'est réjoui de la libération du journaliste Ivan Gerskovich et de l'ex-marine Paul Whelan. Il a salué les décisions courageuses des alliés occidentaux. Les opposants russes, Ilya Yashin, Oleg Orlov et Vladimir Karamurza, devraient également être libérés. En Russie, le vice-président Medvedev a, lui, salué le retour de ceux ayant travaillé pour la patrie. C'est le premier échange de prisonniers entre Moscou et les Occidentaux depuis la libération en décembre 2022 de la joueuse américaine de basket, Brittney Griner, contre celle du célèbre trafiquant d'armes russe, Viktor Bout, qui était emprisonné aux États-Unis. Un précédent échange en 2010 avait vu la libération de 14 espions, dont les Russes Anna Chapman, condamnée aux États-Unis, et Sergueï Skripal, agent double, emprisonné en Russie.
Une foule en deuil a participé aujourd'hui à Téhéran aux funérailles du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, tué mercredi dans la capitale iranienne par une frappe imputée à Israël. La cérémonie a été marquée par des appels à venger sa mort. Rosine Monizero.
À l'université de Téhéran, le guide suprême d'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a récité la prière des morts devant les cercueils d'Ismaël Haniyeh et de son garde du corps, couvert du drapeau palestinien. Portant des portraits de Haniyeh, des milliers de personnes ont assisté à cette cérémonie, de même que de hauts responsables, dont le tout nouveau président iranien, Massoud Pezeshkian, ainsi que Hossein Salami, chef des gardiens de la révolution. Le chef du Hamas doit être enterré demain au Qatar, où il vivait en exil. Mercredi, avant l'aube, Ismaël Haniyeh, 61 ans, a été tué après avoir assisté à la cérémonie d'investiture de M. Pezeshkian. Il a été tué par un projectile aérien selon les médias locaux. L'Iran et le Hamas ont accusé Israël et promis de venger sa mort, survenue quelques heures après celle du chef militaire du Hezbollah libanais, Fouad Chokr, tué mardi soir par une frappe revendiquée par Israël dans la banlieue sud de Beyrouth. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé mercredi qu'Israël a porté des coups sévères à ses ennemis sans commenter l'attaque de Téhéran.
Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a déclaré aujourd'hui que le mouvement chiite libanais soutenu par l'Iran vengerait sans aucun doute l'assassinat de son chef militaire. Fouad Chokr a été tué mardi par une frappe israélienne dans la banlieue sud de Beyrouth. Mercredi, c'était le dirigeant du Hamas, Ismaël Haniyeh, qui a été assassiné à Téhéran par une frappe imputée donc à Israël. Israël est en état d'alerte après tout cela. Prêt à tout scénario, a déclaré ce jeudi le premier ministre Benjamin Netanyahou, alors que l'Iran et ses alliés discutent de possibles représailles à la mort du dirigeant du Hamas et du chef militaire du Hezbollah. Nous exigerons le plus haut prix pour tout acte d'agression à notre encontre, d'où qu'il vienne, a fait savoir Benjamin Netanyahou, selon des propos relayés par ses services. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a appelé ce jeudi toutes les parties au Moyen-Orient à la désescalade et à parvenir urgemment à un cessez-le-feu à Gaza, sur fond de crainte d'un embrasement après la mort du chef du Hamas. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a également appelé mercredi à intensifier les efforts diplomatiques afin d'éviter un embrasement au Moyen-Orient après la mort donc du chef du bureau politique du Hamas et d'un haut commandant du Hezbollah libanais. Et puis, en Grande-Bretagne, un adolescent de 17 ans a été placé en détention ce jeudi pour l'attaque au couteau contre des enfants de Southport qui a déclenché une série de manifestations émaillées de heurts avec la police dans plusieurs villes du Royaume-Uni face à la propagation de ces protestations jusqu'à Londres où plus de 100 manifestants ont été arrêtés. Le Premier ministre Keir Starmer a promis la plus grande fermeté face aux violences attribuées à des sympathisants anti-immigration. Voilà pour le journal. À présent, le journal des Jeux Olympiques avec Eric Manirakiza.
La marche a ouvert le bal des épreuves d'athlétisme qui animeront la deuxième partie des Jeux. Le titre masculin est revenu à l'équatorien Brian Daniel Pintado. Chez les dames, le titre est revenu à la chinoise Yang Jiayu qui a mis une minute. Qui a mis 1h25 minutes et 54 secondes pour parcourir 30 fois le parcours d'un kilomètre planté en plein centre de Paris avec un passage au pied de la Tour Eiffel. L'Afrique est très attendue dans les épreuves d'athlétisme de ces Jeux Olympiques. Ce soir, nous vous présentons le portrait de Naomi, une athlète togolaise pleine de promesses.
Je m'appelle Naomi Akakpo, je fais de l'athlétisme, je suis actuellement aux Jeux Olympiques pour le Togo. Je suis née en France, à Romainville, pas très loin du Stade de France. Actuellement, j'habite à Marseille, mais ça m'arrive souvent de voyager en Afrique, que ce soit pour aller au pays, au Togo, ou bien pour des compétitions.
Naomi partage son rêve de briller aux Jeux Olympiques.
Alors, mes objectifs dans ces Jeux Olympiques, c'est vraiment d'aller au-delà de mes limites. Donc, en d'autres mots, ce serait de battre mon record, de pouvoir passer un tour. Et en dehors du côté sportif, j'aimerais vraiment pouvoir inspirer les jeunes gens, les jeunes filles, les jeunes garçons, que ce soit en Afrique, au Togo, en France ou vraiment à travers le monde. Je veux que le Togo puisse être bien représenté, qu'on puisse nous voir, que les gens nous voient, essayer d'inspirer le plus de monde possible. Je pense que la jeunesse, c'est le futur de demain et que c'est à travers eux et leur engagement qu'on arrivera à avancer. Donc c'est vrai que c'est important qu'ils puissent avoir une image sur laquelle se baser, se dire bah si cette personne y arrive, moi aussi je peux y arriver. J'espère vraiment pouvoir faire en sorte que certaines personnes puissent se lancer dans leurs rêves, dans leur sport et devenir de grandes personnes plus tard.
Déjà médaillée d'argent dans une compétition internationale de hors Jeux Olympiques, Naomi nous parle de sa spécialité.
J'ai commencé par faire de la hauteur et des épreuves combinées, mais finalement, c'est sur le 100 mètres haies que je me suis sentie le plus à l'aise et je me suis spécialisée dedans. Je pratique aussi le 100 mètres plat, et c'est actuellement pour ça que j'ai été sélectionnée cette année aux Jeux Olympiques de Paris. Mon expérience, j'ai participé à 2 championnats du monde sur 100 mètres haies, j'ai aussi le record national sur 100 mètres haies et 60 mètres haies. Les championnats du monde en question, c'était Eugene 2022 et Budapest 2023. Et en 2022, j'ai également remporté la médaille d'argent à Konya, au lieu de la solidarité islamique. Et voilà.
Naomi exprime sa gratitude envers sa défunte mère, qui a joué un rôle crucial dans son parcours jusqu'à cette phase olympique.
Alors, j'aimerais dédicacer ces Jeux Olympiques à ma maman, qui est décédée il y a quelques années, qui est partie bien trop tôt. Elle m'a vraiment encouragée à fond dans ce sport et c'est elle qui m'a motivée à être là aujourd'hui. Donc, c'est son rêve et mon rêve qui se réalise actuellement. J'aimerais aussi remercier ma famille, mon papa, mon chéri et mon petit frère qui sont avec moi au quotidien et vraiment qui me portent et qui m'encouragent. Et bien évidemment, remercier mon coach parce que c'est quand même grâce à lui que j'arrive à courir vite. Donc voilà, il y a aussi tout le staff derrière, l'équipe médicale, etc. Donc vraiment merci à toutes les personnes qui m'accompagnent, merci à toutes les personnes qui me soutiennent et je vous aime tout le temps.
Le président des comités nationaux olympiques d'Afrique, Mustapha Beraf, a déclaré à VOA Afrique qu'il s'attend à voir le continent africain remporter plus de médailles que lors des JO précédents à Tokyo. Au sixième jour des Jeux de Paris 2024, l'Afrique a déjà décroché 5 médailles, dont une d'or remportée par l'Afrique du Sud.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Un accord de cessez-le-feu a été conclu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il entrera en vigueur le 4 août prochain. Il a été obtenu sous la médiation de l'Angola. Vénus Nshimiyimana a recueilli la réaction d'Olivier Jean-Patrick Ndungurie, le ministre rwandais des Affaires étrangères.
La décision principale qu'on a prise à Luanda, c'est de s'accorder sur un cessez-le-feu entre les parties en conflit à l'est de la RDC à partir de dimanche 4 août à minuit, heure locale. Les 30 pays signataires se sont engagés à superviser la mise en application de cet accord par le mécanisme ad hoc de vérification qui est dirigé par le BLAP, mais qui sera renforcé par des experts en renseignement des trois pays. Ces experts, d'ailleurs, vont se réunir bientôt, non seulement pour évaluer la mise en application du cessez-le-feu, mais aussi pour parler d'autres sujets qui sont points d'achoppement entre les deux pays, y compris, bien sûr, la question des FDLR.
Mais alors, quelles sont les chances de survie de cet accord, un accord qui a été signé et sans la présence de l'un des belligérants principaux, notamment le M23.
La réunion de Luanda est une réunion entre des États, entre les trois États. Ce n'est pas une réunion entre parties belligérantes. Donc, ce qu'on fait, comme je l'ai dit, c'est de garantir qu'il y ait un cessez-le-feu et qu'on y mette les moyens, notamment à partir de ce mécanisme ad hoc. Pour le M23, et d'ailleurs pour tous les autres groupes armés, il y a un autre processus, qui est le processus de Nairobi, qui est sous l'égide de la communauté de l'Afrique de l'Est, East African Community, piloté actuellement par un ancien président kényan, Uhuru Kenyatta. Et c'est ce processus qui contient deux volets. Il y a un volet politique, donc le dialogue entre le gouvernement congolais et les partis et les groupes armés à l'est de la RDC, mais aussi un volet militaire où il y avait une force régionale de l'East African Community qui avait d'ailleurs pu imposer un cessez-le-feu pendant 6 mois, de mars à septembre, avec le retrait des M23 de plus de 80% de son territoire, mais malheureusement qui a été expulsé par le président congolais parce qu'il estimait que cette force n'était pas assez offensive.
Et en quoi les pourparlers en cours entre le Rwanda et la République démocratique du Congo pourraient mener à une paix durable dans la région?
Justement, le processus de Luanda n'a pas l'ambition de résoudre tous les problèmes de la RDC. Ce processus a l'ambition de régler les problèmes qui concernent principalement les deux pays. Par exemple, j'ai parlé de la question des FDLR, mais le Rwanda est affecté directement par ce conflit.
Olivier Ndungurire, ministre rwandais des Affaires étrangères.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
En Guinée, les avocats de Moussa Dadis Camara, condamnés hier à 20 ans de prison, ont annoncé ce matin faire appel à l'annonce de la décision. L'ONG Amnesty International a salué un verdict historique. Claire Morin-Jibou a joint le chercheur du Bureau Afrique de l'Ouest d'Amnesty International, Fabien Hoffner.
Oui, évidemment, c'est un verdict historique et on voit les réactions des uns et des autres, à part évidemment la défense et les avocats de la défense. Tout le monde félicite ce verdict, que ce soit les organisations de défense des droits humains de façon générale comme Amnesty International, les organisations qui étaient parties civiles comme la Fédération internationale des droits de l'homme, l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et la VIPA, mais également la Cour pénale internationale. Donc c'est un succès pour tout le monde. D'une part, c'est historique pour la Guinée, puisque les victimes attendaient depuis 2009, donc depuis 13 ans, que justice soit rendue, et la justice a finalement été rendue. Également en Guinée, où depuis 1958, les régimes autoritaires qui se sont succédés se sont rendus responsables de multiples violations très graves des droits humains, et pour une fois, pour une fois, l'une de ces violations extrêmement graves a été jugée. Et puis, c'est également encourageant par rapport à ce qui ressort de la coopération entre la Cour pénale internationale et les pays, et notamment les pays africains, puisque pour la première fois après une enquête initiale de la CPI, eh bien, un pays a pris à bras-le-corps ce pourquoi les violations étaient commises et a enquêté et jugé, aller jusqu'au bout du processus.
Alors justement, est-ce que ce procès peut servir de modèle pour de futurs procès africains ?
Il faut l'espérer. Ce qu'on a constaté, c'est que au-delà de la Guinée, même en Afrique de l'Ouest, ça a été un procès qui a été assez populaire. On a vu des extraits qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux, sur TikTok, par des gens de tous les âges. Et le fait que ce procès soit diffusé en direct par les médias guinéens a, je pense, beaucoup aidé à démocratiser un petit peu ce procès et le fonctionnement de la justice. Ça a été, selon les dires des personnes qui ont participé, un succès quand même assez notable, avec un procès qui a été bien mené, en dépit du fait qu'il y a eu quand même de graves problèmes extérieurs, notamment le fait que plusieurs prisonniers se soient évadés à un moment donné avant que certains soient repris. Donc c'est évidemment un exemple, notamment en ce moment en Afrique de l'Ouest, où de nombreux crimes continuent d'être commis, en Guinée, mais pas seulement en Guinée, et c'est suffisamment rare pour se dire que ça puisse servir d'exemple et d'avertissement pour la suite.
Fabien Hoffner, chercheur au bureau régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ici aux États-Unis, le candidat républicain Donald Trump et la probable candidate démocrate Kamala Harris sont tous deux en campagne. M. Trump a mis en doute l'identité raciale de sa rivale et cette dernière lui a lancé un défi, celui de l'affronter dans un débat. À moins de 100 jours de l'élection, notre collègue Scott Stern examine l'état de la course et ce que les électeurs disent des candidats. Le récit est de Chérubin Dorsil.
Le candidat républicain Donald Trump a déclaré à ses partisans dans l'état clé de Pennsylvanie que son probable adversaire démocrate est un imposteur.
Les patrons du parti démocrate de la gauche radicale ont mis en place une candidate fantoche qui ne se battra que pour eux. Kamala Harris n'a obtenu aucune voix. Elle est totalement scénarisée et contrôlée par les donateurs et les courtiers du pouvoir qui ont créé sa campagne et qui arnaquent notre gouvernement et gagnent des milliards et des milliards de dollars.
Plus tôt dans la journée de mercredi, Donald Trump a eu une rencontre controversée avec des journalistes noirs au cours de laquelle il a remis en question l'identité raciale de Madame Harris, dont la mère est indienne et le père noir.
Elle a toujours été d'origine indienne. Elle n'a fait que promouvoir l'origine indienne. Je ne savais pas qu'elle était noire jusqu'à ce qu'elle le devienne il y a quelques années. Et maintenant, elle veut être connue comme noire. Je ne sais donc pas si elle est indienne ou noire. Est-elle indienne ou noire?
Kamala Harris s'identifie depuis longtemps comme étant à la fois noire et sud-asiatique. Depuis qu'elle est devenue la probable candidate démocrate à l'élection présidentielle, elle a fait jeu égal avec Trump dans sept états clés, selon les sondages de Bloomberg News et Morning Consult, en grande partie grâce au soutien plus important des jeunes électeurs, des Noirs et des Hispaniques. Pour elle, cette campagne a pris un nouveau tournant.
La dynamique de cette course est en train de changer et il y a des signes qui montrent que Donald Trump le ressent. Vous l'avez peut-être remarqué.
Madame Harris a déclaré lors d'un rassemblement mardi en Géorgie que Donald Trump semble avoir beaucoup de choses à dire à son sujet, mais qu'il ne veut pas participer à un débat en septembre comme prévu.
Eh bien, Donald, j'espère que vous allez décider de me rencontrer dans ce débat, parce que, comme le dit le proverbe, si vous avez quelque chose à dire, dites-le-moi en face.
Kamala Harris devrait annoncer son colistier dans les prochains jours et il lui reste la convention du parti à Chicago pour convaincre les électeurs qu'elle est un meilleur choix que Donald Trump. En Caroline du Nord, l'électrice Wanda Cherry se dit enthousiaste à l'idée que le parti démocrate fasse du président Joe Biden à Kamala Harris.
Je suis contente que le président ait réalisé que nous avons besoin de quelqu'un de plus jeune pour diriger le pays, quelqu'un qui a l'intelligence et la volonté de se présenter.
T. Stanley, électeur de Géorgie, ne pense pas que Mme Harris soit prête à devenir présidente.
D'abord, le fait qu'elle soit candidate, c'est vraiment horrible selon moi, parce que, tout d'abord, elle n'est pas préparée pour ce poste, et il semble qu'elle soit déjà présidente maintenant.
En Californie, l'électrice Marina George affirme que le soutien de Trump est suffisamment fort pour vaincre n'importe quel adversaire.
Même avec l'entrée de Kamala Harris ou de n'importe qui d'autre, ils ne vont pas gagner. Cela ne fait qu'accentuer l'éclatement du Parti démocrate. Et tout ce qu'ils font est bon pour les républicains.
Au niveau national, le sondage Bloomberg montre que Harris et Trump sont au coude à coude à moins de 100 jours de l'élection.
À votre avis, une émission interactive sur VOA Afrique. Du lundi au vendredi, micro ouvert sur l'actualité brûlante, les sujets sociaux et culturels. Enregistrez vos réactions sur WhatsApp +1 202 297 60 89. Participez en nous contactant sur notre page Facebook ou appelez-nous en direct à partir de 18h05, temps universel, au +1 202 205 26 33. À votre avis, la parole est à vous, tous les jours, sur VOA Afrique.
Their arms are like it.
dans un instant, le magazine À votre avis, en compagnie de Alexandrine Lognon. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Millon à ce micro, à la mise en onde. Michel Joseph, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Thank you.